a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et pourtant, Horeb, ce n'est pas un mauvais endroit. Horeb n'est pas une mauvaise montagne. Et pourtant, c'était à Horeb que Dieu s'est révélé pour la première fois à Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14, Dieu se révèle à Moïse. Moïse connaît Dieu. À Horeb, il a rencontré Dieu. Et pourtant, Horeb, ce n'est pas un mauvais endroit. C'est à Horeb que Dieu, pour la première fois, il fait alliance avec ce peuple qui vient de quitter Égypte. Dans Exode chapitre 19, il arrive devant sur la montagne d'Horeb et il fait alliance avec ce peuple. Il dit, aujourd'hui vous serez mon peuple, alors purifiez-vous et moi je serai votre Dieu pour l'éternité. À Horeb, ils ont rencontré Dieu. Et pourtant, à Horeb, Dieu leur a donné la loi, les 10 commandements, dans Exode chapitre 20. C'est à Horeb que Dieu envoie les 10 commandements. Ils reçoivent les 10 commandements de la part du Seigneur, un endroit où ils rencontrent le Seigneur. Horeb, pas un mauvais endroit. Horeb, un endroit où Dieu a forgé une histoire avec son peuple. Horeb, un endroit où le peuple de Dieu a rencontré son Dieu. Et pourtant Dieu dit, vous avez assez longtemps demeuré là-bas. Et si j'aimerais dire, avant d'aller très loin, ce ne sont pas que de mauvaises choses qui nous empêchent de saisir les meilleurs. Il y a aussi les bonnes choses qui nous empêchent de saisir le meilleur que Dieu a pour nous. Des fois, lorsque nous nous réjouissons des bonnes choses que Dieu nous a données, nous pouvons rater les meilleurs que Dieu a préparés. Les bonnes choses que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions demeurer seulement là. C'est pour que nous puissions croire que celui qui a fait ça, il peut faire encore plus. Et si j'aimerais dire que les bonnes choses que Dieu commence à te donner ne te fassent pas oublier la mission qui est d'aller à la terre promise. Qui est d'aller à la terre promise. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui peut faire que les gens n'avancent pas, que les gens restent au même moment, au même endroit pendant 38 ans, alors qu'ils savaient que ce qui les attendait était meilleur? Qu'est-ce qui peut faire que les gens n'avancent pas, qu'ils ne veulent pas prendre possession de ce que Dieu a prévu pour eux? Et ici, je vais nous proposer 3 raisons, 3 choses qui peuvent faire que les gens refusent d'avancer pour prendre possession de ce que Dieu a prévu pour eux. Et la première chose, c'est le confort. Le confort peut nous empêcher d'aller prendre possession de ce que Dieu a prévu. Le confort peut faire à ce que nous restions au même endroit, alors qu'il y a meilleur. Alors, dans ces passages, on parle des gens qui étaient esclaves pendant plus de 4 siècles en Égypte. En tant qu'esclaves, ils travaillaient durement, pour rien ou pour peu. Ils n'avaient pas de droits, ils n'avaient pas de projets, ils dépendaient de ce que les Égyptiens attendaient d'eux. Ils n'avaient pas d'avenir en Égypte. Dieu envoie Moïse pour les libérer. Ceux qui étaient esclaves, ils voient pendant plusieurs siècles le libérateur arriver. Dans Exode chapitre 1, verset, Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14, comme je l'ai dit, Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. J'ai vu ses larmes. Et je ne suis pas resté. Je suis descendu pour le délivrer. Et Dieu qui a entendu, qui a vu la souffrance, il envoie Moïse, il dit, maintenant, va et délivre mon peuple. Moïse s'élève, il prend la mission, il arrive en Égypte, il dit au Pharaon, Dieu m'a envoyé pour que tu libères mon peuple, que tu libères son peuple. Des choses se sont passées, Dieu a fait des choses pour surprendre le Pharaon, et le Pharaon les a permis de partir. Il a dit, partez. Et alors qu'il partait, il se rend compte, mais non, c'est toute la main d'œuvre qui part. Que deviendra l'Égypte sans ces gens? Il s'est dit, mais non, ils ne doivent pas partir. Il lui dit qu'il prépare son armée. Et il commence à poursuivre ces gens. Ces gens qui commençaient à voir le rêve de la liberté, ils se rendent compte que ce rêve ne peut pas s'accomplir. La même personne qui les a libérés est maintenant en train de les poursuivre. Ils sont en train de courir. Derrière, il y a le Pharaon, il y a son armée. Mais ils arrivent en face, ils trouvent la mer rouge. Ils se tournent vers Moïse, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as amenés pour mourir ici. Et dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, la Bible dit, Dieu il dit à Moïse, et Moïse dit à son peuple, ne pleurez pas, calmez-vous, et vous verrez comment Dieu va vous délivrer. Ces Égyptiens que vous voyez là derrière, vous ne les verrez plus jamais. Parce que c'est lui qui vous a délivré en Égypte, il n'a pas encore fini. Et ici, j'aimerais dire, c'est que Dieu a commencé et il amène toujours jusqu'à la fin. Même si nous ne voyons pas, même si nous ne croyons, même si nous ne voyons pas, il est là. Et ils pouvaient voir que la mer rouge devant eux, ils pouvaient voir les Égyptiens derrière eux, mais ils ne voyaient pas le Dieu qui allait combattre pour eux. Et Moïse, il dit, taisez-vous, gardez silence, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, vous, restez calme. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et à ce moment-là, Dieu fait un miracle. Ces gens qui n'avaient pas de projet, ces gens qui n'avaient pas d'avenir, Dieu ferait un chemin. On vient de les chanter, il ferait un chemin. Et lui, il n'a pas besoin des endroits plats, des endroits bien préparés pour frayer le chemin. Des fois, on se retrouve en face des situations, on se dit, ici, je passe par où? Celui qui ferait le chemin. Il le fait quand même. Peu importe ce que tu vois en face de toi. En face d'eux, c'était la mer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé un boulevard dans la mer. Au même moment, la Bible dit que les eaux se sont séparées. Et les eaux formaient comme des murs de part et d'autre. Et les gens, ils ont commencé à marcher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé. Il a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu et je suis venu délivrer. C'est que je suis venu faire, je vais le faire jusqu'à la fin. Et là, il les amène. Et les gens d'Israël, les enfants d'Israël, là, ils sont en train de partir. Ils voient derrière eux les Égyptiens. Ils voient le boulevard qui est ouvert. Mais dans ce boulevard, ce n'est pas encore confortable. Parce que tu es en train de passer là où il n'y a jamais eu de route. Et autour de toi, tu vois de l'eau. L'eau qui a englouti beaucoup de gens. Et qui va bientôt engloutir aussi Pharaon et toute son armée, ce n'est pas confortable. Quand tu traverses comme ça, ce n'est pas confortable. On peut se dire, et si l'eau revenait à sa place? Et si, à un certain moment, quelque chose se passe, ils sont en train de marcher. Ils arrivent de l'autre côté de la mer. La Bible dit que les eaux reviennent à leur place. Alors que Pharaon, il pensait qu'il pouvait faire le même parcours. Le parcours que Dieu a fait, c'était pour les enfants d'Israël, ce n'était pas pour n'importe qui. Il y a des chemins que Dieu trace que pour toi. Quand ton ennemi essaie de rentrer, il va rencontrer Dieu sur ce chemin. Et le Pharaon, il s'est dit, je vais passer par là. Et lorsqu'il essaie de passer, la Bible dit qu'ils ont été engloutis, lui et toute son armée. Et les enfants d'Israël, ils se retrouvent de l'autre côté de la mer. Ils commencent à chanter. Ils ont chanté un chant merveilleux. Si vous pouvez lire dans Exode chapitre 15, chez vous, le chant qu'ils ont chanté. Merci Seigneur, tu nous as sauvé la vie. Tu nous as délivrés. Un chant intéressant. Prenez le temps de le lire. Ils célèbrent le Seigneur qui les a délivrés de l'esclavage, qui les a ramenés jusqu'à ses côtés. Jusque-là, ce n'est pas encore confortable. Et Dieu les amène, il les conduit dès là. Il les amène. Il les amène à Sinaï, à Horeb. Dans Exode chapitre 16, Dieu envoie la manne. Un peu pour dire, ils ne vont pas travailler pour avoir à manger. Dieu va donner à manger pour tous les jours. Les gens qui travaillent durement en Égypte, pour gagner rien ou pour gagner peu, et commence à ne rien faire pour avoir à manger. La situation commence à changer. Alors qu'ils avancent, à Exode chapitre 17, ils ont besoin de l'eau. Ils arrivent au rocher de Horeb. Dieu crée de l'eau. Dieu leur donne de l'eau. Ils ont à manger. Ils ont à boire. Les choses deviennent de plus en plus confortables. Au même endroit, Exode chapitre 19, Dieu fait une alliance avec eux. Au même endroit, Exode chapitre 20, Dieu fait des promesses, il envoie la loi, il commence à s'organiser. Ce peuple s'installe autour d'Horeb, il s'installe. Dans Exode chapitre 25, Dieu demande de construire le tabernacle, l'endroit qui représentait sa présence. Ces gens commencent à trouver des repères. Ils ont installé des tentes. Ils ont créé un système de vie tous les jours. Il y a des lois que Dieu leur a données. Et ils se disent, ici, nous pouvons vivre. La manne continue à venir tous les jours. Ils sont maintenant bien organisés en tant que communauté. Ils sont maintenant ils ont un endroit où ils peuvent rencontrer Dieu. Les tabernacles sont là. Ils ont leurs choses. Tout commence à venir normal. Ces gens qui travaillaient durement, ici, ils n'ont pas besoin de travailler. Dieu fait tout. Ça devient confortable. Pour quelqu'un qui vient de l'esclavage, pour quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui avait le pharaon derrière lui, il se retrouve, personne ne le pourchasse. Il ne paye pas le loyer. Il n'a pas besoin de travailler pour manger. Il devient confortable. Et il dit, nous allons rester ici. Et Dieu continue à parler à leur vie. Dieu continue à faire beaucoup de choses pour eux. Chapitre 32 d'Exode. Il commence même à devenir plus confortable, au point de bâtir un veau d'or pour commencer à adorer. Ils sont confortables au point d'oublier celui qui les a fait sortir de l'esclavage, celui qui les a conduits jusqu'à cet endroit. Ils se sont bien installés. Et à un certain moment, Moïse monte pour chercher Dieu et ces gens, ils se rendent compte que Moïse, il a traîné. Ils se disent, mais non, 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 non. Non. Nous pouvons aussi faire un Dieu que nous allons adorer. Ils sont confortables au point de dire, Dieu, on n'a plus besoin de toi. Tu as fait ta part. Laisse-nous vivre. Laisse-nous faire ce que nous pouvons faire. Ils sont confortables. Nous sommes bien ici. Pourquoi partir? Quand Pharaon était derrière eux, ils étaient motivés de partir. Quand il y avait la mer, ils étaient motivés de partir. Quand il n'y avait rien, ils étaient motivés. Mais quand tout devient confortable, ils ont tout oublié. Des fois, lorsque les choses deviennent confortables, on oublie même la mission que Dieu nous a confiée. Dieu a dit, allez prendre possession de la terre. Mais ils se disent, on peut rester ici. Cette terre-là, on n'en a pas besoin. Et ici, avant d'aller très loin, j'aimerais dire à quelqu'un, le confort est l'ennemi de la croissance. Lorsqu'on reste dans sa zone de confort, on ne va pas croître comme il faut. Lorsqu'on reste dans sa zone où tout est facile, rien, ça ne te demande aucun effort, il n'y aura pas de croissance. La croissance n'arrive que lorsque tu quittes la zone de confort où tu es obligé de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Lorsque tu es confortable avec la situation que tu mènes, cette vie, cette situation-là ne va pas changer. Lorsque tu es confortable avec la réalité que tu traverses, tu ne feras rien pour changer cette réalité. Des fois, pour nous amener vers ce que Dieu a prévu pour nous, il nous amène en dehors de notre zone de confort. Pour certains couples, avant le mariage, la femme ou bien la fiancée, elle se faisait belle pour son fiancé. Quand il lui parlait, c'est d'une certaine manière. Parce qu'il se disait, c'est ma fiancée. Et maintenant, on est mariés, on est confortable. On se parfume que quand on va sortir. Un homme racontait l'histoire, il dit, une fois son épouse s'est préparée pour aller au travail, et alors qu'il voulait sortir, et c'était très bien préparé, alors qu'il voulait sortir, son chef l'appelle, il dit, mais non, non, tu n'es pas obligé de venir, tu peux travailler de la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé les perruques. C'est là. Et son mari qui l'arrête et il dit, donc, la beauté, c'est pour ceux qui sont dehors. Moi, je vois tout ce que... Moi, tu n'as pas besoin de tout ça quand tu es avec moi. Elle est très confortable. Ces hommes, quand ils étaient en train de courtiser cette demoiselle, des attentions, ils étaient vraiment là. Et ils s'avaient remarqué quand tu avais changé de coiffure. Et ils s'avaient remarqué quand tu changeais d'odeur, tu sens bien. Oh, j'aime ton sourire. Quand tu me parles comme ça, mais oh, une fois marié, on oublie. Il n'y a plus d'attention. Tu changes de coiffure, tu changes même, tu coupes même les cheveux, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, tu es déjà là. Quand tu deviens confortable, tu commences à perdre ce que tu as. Nous sommes en train de rire, mais ce sont des petites choses qui tuent même les couples. Parce qu'on devient confortable. Mais lorsque tu sais il y a meilleur toujours, tu vas travailler pour le meilleur. Mais lorsque tu deviens confortable, tu ne feras rien. Le confort, c'est l'ennemi de la croissance. Pour certains dans notre vie avec le Seigneur, on a rencontré le Seigneur, on est content de rencontrer le Seigneur, on est zélé de servir le Seigneur, mais plusieurs années dans le Seigneur, on commence à relâcher un peu. Le même zèle qu'on avait avant disparaît. Ce qui était péché avant, aujourd'hui on se dit, mais c'est juste une faiblesse. On commence à dire, mais Dieu va comprendre. Alors que lorsqu'on commençait, on se disait, Seigneur, plus de toi et rien que toi. Mais on devient confortable, on dit, Dieu va comprendre. Dieu il devient notre camarade parce qu'on a passé du temps avec lui. J'ai entendu un vieux chrétien dire à un nouveau chrétien, il dit, j'étais aussi comme toi. Comme pour dire, ça va changer. Et moi, j'étais là, j'ai dit non, non, ça ne changera pas. Ça ne doit pas changer. Et si ça devrait changer, ça doit être dans le meilleur, pour devenir encore meilleur, encore plus attaché à Dieu. Le confort vient pour tuer la croissance. Et Dieu, il veut parler, il veut faire des choses avec Abraham. La première des choses que Dieu fait, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va là où moi je t'indiquerai. Dieu, il veut faire des grandes choses avec Abraham. Il lui dit, quitte ta zone de confort. Ta maison, tu la maîtrises bien. Ta patrie, tu la maîtrises bien. Pas. Si tu restes là, il y a des choses que tu ne vivras pas avec moi. Il y a des choses que je ferai et tu penseras que c'est parce que toi, tu es habitué que ça s'est passé. Que les choses que je ferai pour toi, tu penseras que c'est parce que tu les fais bien. Et Dieu dit, pars de cet endroit. Pars à cet endroit que moi, je t'indiquerai. Et je me demande toujours, il a fait comment ces jours-là? D'abord pour convaincre son épouse. Ça fait 6 ans que je suis marié. Pour aller à Paris, Olga, elle veut savoir où à Paris. Quelqu'un dit, ben oui. Alors là, tu veux dire, Abraham, il se lève, il dit, Sarah, on y va. Et on prend tout. On va où? On va. Toi, viens. Si toi, tu étais la femme d'Abraham, femme, que Dieu vous aide. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Je ne parle pas de ma femme, elle est où, quelque part. Il s'élève. Je me demande quand il a quitté la maison, comment il a pris la décision. Il s'est dit, je prends quelle direction? Des fois, lorsque tu suis le Seigneur, tu ne vois pas où tu vas, mais tu le suis parce qu'il est en train de dire. Et une chose que j'ai remarquée avec le Seigneur, la clarté vient avec l'obéissance. C'est au fur et à mesure qu'on obéit que les choses deviennent claires. Abraham pouvait se dire, Seigneur, tant que tu ne m'as pas dit où je vais, je ne vais pas. Tant que tu ne m'as pas dit où je vais, alors je ne pars pas. Et Abraham ne saurait jamais où Dieu l'attendait parce qu'il n'a pas obéi. Lorsqu'on obéit, les choses deviennent claires. N'attendez pas que Dieu clarifie toutes choses. La clarté vient au fur et à mesure qu'on obéit. Il dit, va dans ces pays que moi je t'indiquerai. Parce que Dieu, pour nous amener dans la croissance, il nous invite à quitter notre zone de confort. Pourquoi les gens restent au même endroit? Ces gens, ils ont quitté l'esclavage, ils ont créé des nouveaux repères, une vie qui marche pour eux. Ils sont confortables, ils ne veulent pas partir. Deuxième chose, manque de discernement des saisons. Manque de discernement des saisons. Il y a mon pasteur qui disait toujours, il y a des choses qui concernent notre bien et notre existence que Dieu a confiées au temps. Tout le temps qui arrive porte un contenu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans cette saison? Si on ne sait pas discerner le contenu de la saison dans laquelle on est, on peut rater ce que Dieu est en train de faire. Beaucoup de gens sont restés dans des postes qu'ils étaient supposés quitter il y a longtemps parce qu'ils n'ont pas compris le contenu des saisons. Beaucoup de gens sont restés travailler au même travail alors que Dieu les attendait ailleurs juste parce qu'ils n'ont pas compris le temps et la saison. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de bâtir, il y a un temps de démolir, il y a un temps.
Et la question que je me permets de te poser ce matin, tu es dans quelle saison pour toi? C'est quelle saison pour toi? Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible dit, parlant des fils d'Issacar, il dit, des fils d'Issacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient qu'en fait, chaque temps a un contenu. Et pendant ces temps, qu'est-ce que nous devons faire? Et lorsque Dieu s'élève et il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne, il est en train de dire, vous avez raté la saison. Pendant un temps, vous deviez être ici. Ce qui me surprend dans ces passages, c'est l'adverbe assez. Il n'a pas seulement dit, vous avez demeuré. Il dit, vous avez assez demeuré. Et assez dans ces passages veut simplement dire d'une manière exagérée. Vous avez dépassé le temps qu'il fallait. Je vous voyais ici pendant un temps. Et la preuve, j'ai fait des choses pour vous ici. Je vous ai parlé ici, les 10 commandements ici, les lois ici, mais vous êtes resté plus que vous ne saviez que vous êtes resté. C'est possible de rester là où Dieu n'est plus. C'est possible de rester là où Dieu n'est plus alors qu'il nous attend ailleurs. Si nous ne savons pas discerner ce que Dieu est en train de faire dans la saison, nous allons rester là où Dieu ne nous veut pas. C'est très important de discerner le contenu de chaque temps et de chaque saison de nos vies. Je suis arrivé en France en 2000, et je continuais à travailler ailleurs. Je me disais, je vais continuer mon travail quand je suis arrivé ici. Je ne savais pas que c'était une autre saison. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu avait un autre contenu pour ma saison. J'avais des projets, je me dis, non, ça va aller. Je travaillais pour le président. Je lui dis, mais écoute, il y a des choses, des projets. Je me dis, c'est ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris. Non, Dieu, il me veut ailleurs. Il veut autre chose. Et le contenu de ces temps-là, quand tu entres dans ce que Dieu est en train de faire pour toi, tu peux saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous que nous ne pouvons pas saisir tant que nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Il y a des gens qui sont restés longtemps dans des endroits où Dieu ne les voulait plus. Vous êtes restés longtemps sur cette montagne. Il est temps de passer et de partir dans la vie. Il est important de savoir. C'est mon père qui me le disait il y a plusieurs années. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il me disait. Il me disait, mon fils, dans la vie, il faut savoir quand partir et comment partir. C'est très important de connaître le temps et de la saison pour se dire, là, je suis à la fin de cette saison. Il y a une nouvelle saison. Il y a des nouvelles choses que Dieu prépare pour nous. Et la troisième chose avant de prier, qui peut faire à ce que les gens restent au même endroit et n'aient pas à aller prendre possession de ce que Dieu a prévu, c'est le doute. Le doute. Ou encore, je voulais parler de la crédulité. Ça peut nous empêcher d'aller saisir et de prendre possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Souvent, on reste longtemps au même endroit parce qu'on doute qu'il y ait quelque chose de meilleur de l'autre côté. On aime déjà ce qu'on a. On est confortable dans ce qu'on a. On ne maîtrise pas la saison. Et on s'est dit, je ne sais pas s'il y a meilleur que ça. J'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il me disait, pasteur, je n'aime pas le travail que j'ai. L'environnement de travail est devenu toxique. Et je ne peux pas partir. Il dit, pourquoi tu ne peux pas partir? Pasteur, qui sait si j'aurai ce que j'ai? Moi, j'ai posé la question. Qui sait si tu auras meilleur que ce que tu as ici? Tu ne sauras jamais si tu n'acceptais pas d'essayer. Tu ne sauras jamais si tu n'acceptais pas de faire le pas. On ne pense pas qu'il y a quelque chose de meilleur. On doute du meilleur qui peut être devant.
Dans
Nombre,
Nombres,
chapitre 13,
versets 27 à 33. Après que
Moïse
Moïse ait envoyé des espions pour explorer la terre promise, ils
ils
sont
sont
revenus
revenus
avec
avec
leur
leur
rapport.
rapport.
Écoutez
Écoutez
le
le
rapport de ces espions. Ils disent: voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les
Les
Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens et les
Éthiens
Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les
et
Cananéens habitent près de la
près
mer et le long du Jourdain. Caleb
Caleb
fit taire le
un
peuple
peu
qui
qui
murmurait
murmurait
contre Moïse et dit: montons,
montons,
emparons-nous
emparons-nous
du
du
pays,
pays,
nous y
nous y serons
serons
vaincus.
vainqueurs. Mais les hommes qui
Qui
étaient
étaient
allés
allés
avec
avec
lui
lui dire:
dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays où ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons pu parcourir pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah bon? Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ah bon, il n'y avait pas de femmes? Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont dit ça à un groupe de gens, 12 espions, qui vont voir explorer la même terre pendant le même moment, ensemble. Ils reviennent avec deux rapports différents. La majorité disent: c'est vrai, il y a mieux de notre côté. C'est vrai, cette terre est tout ce que Dieu a dit qu'elle était. Mais restons ici, parce que nous ne pouvons pas l'avoir. C'est vrai que c'est mieux, c'est vrai que ce que nous vivons n'est pas tout ce qu'il y a. C'est vrai que nous pouvons faire mieux de notre côté. C'est vrai que nous pouvons toucher mieux de notre côté. Mais restons ici, parce que nous ne pouvons pas. Il dit: ces gens que nous avons vus là-bas, à nos yeux, et sûrement quand eux aussi vous regardaient, ils disaient: regardez son terrain. Alors qu'ils entendaient la même chose, Josué et Ephraim et Caleb, ils disent un autre rapport. Il dit: mais non, 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 non. Allons-y. Montons. 2, 10. 2 disent: montons. 10, ils disent: non, nous ne pouvons pas. Et je voudrais dire à quelqu'un: devant tout rapport, devant tout changement, devant toute transition, il y aura toujours ces deux catégories des personnes. Il y aura de ceux qui diront: mais non, ce n'est pas possible. À nos yeux et à leurs yeux, sont réels. Nous, on ne mérite rien. Nous, on ne peut pas. Il y aura aussi d'autres qui diront toujours: allons-y, on peut le faire, nous y serons vainqueurs. Et la question que je me pose et que je vous pose ce matin: de quel groupe faites-vous partie? Ceux qui doutent, si vous doutez, vous n'êtes pas les premiers. Et si vous croyez, vous n'êtes pas les premiers. Mais dans tous les cas, Dieu agit toujours. Et le problème, c'est que la plupart de ceux qui ont douté, ils ne sont pas arrivés. Et ma crainte, c'est que certaines personnes n'arrivent pas juste parce qu'ils n'ont pas cru. Comme le prophète Élisée pouvait le dire à ses serviteurs: demain, à cette même heure, il y aura à manger pour tout le monde. Et ce gars qui regarde, il dit: même si Dieu ouvrait les fenêtres des cieux et qu'il faisait tomber à manger, pareille chose n'arriverait pas. Et le prophète qui le regarde: toi, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Ma crainte est que certains voient, mais qu'ils ne les touchent pas. Et ma prière, que nous voyons tous et que nous touchions tous, que nous soyons tous en mesure d'y aller. Joseph n'a pas dit, Josué n'a pas dit: moi, je vais aller. Il a dit: allons-y. Il y a des choses que nous devons prendre ensemble. Nous devons prendre possession de certaines choses ensemble. Nous voulons pas laisser certaines choses, certaines personnes derrière nous. Ils ont vu la même chose, différents rapports, et se sont dit, certains restent ici. 38 ans plus tard, ils étaient encore dans le désert, parce qu'ils se sont dit, c'est impossible. Et Moïse, il se retrouve avec eux en face du Jourdain. Il dit, vous voyez ce qui s'est passé pour vos pères. Pourquoi ça leur a pris longtemps pour arriver ici? Il dit, c'est possible que ça vous prenne aussi longtemps si vous agissez comme eux. C'est possible que les choses ne changent pas si vous agissez comme eux. Vous venez de vaincre certains rois de ce côté du Jourdain et vous pouvez vous réjouir de ça et être confortable et ne pas comprendre que cette saison, c'est d'aller et d'aller jusqu'au bout et rester là. Et vous pouvez douter que Dieu soit en mesure de vous donner et vous allez tout rater. Mais il dit, ne faites pas la même erreur. Parce que tout dépend de vous. Dieu vous a donné. C'est à vous de prendre possession. Nathalie l'a dit ici. Dieu va faire sa part. Sans notre part, il y a des choses que nous ne vivrons pas. Et dans tout ce que tu vis, ma question que je pose, c'est quoi ta part que Dieu attend? C'est quoi la part que tu dois faire? Il dit, allez et prenez possession. Confort, manque de discernement, doute, les a conduits à faire 40 ans. Qu'est-ce que toi tu comptes faire? Dans Philippiens chapitre 13, chapitre 3, versets 13 à 14, c'est Paul qui dit, et les frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. En arrière, il y a des choses. À Horeb, il y a des choses. Des bonnes choses même que Dieu a fait, que Dieu a accompli. Oubliant ce qui est en arrière. Et regardant ce qui est en avant. En avant, il y a des choses. Ce que vous avez maintenant n'est pas tout ce que Dieu a. Il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore touchées. Regardant ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que je fais? Je cours. C'est bien de voir qu'il y a des choses en avant, mais c'est encore mieux de se lever pour aller vers ces choses. C'est bien de croire qu'il y a des choses en avant, mais c'est encore important de se lever et de dire, j'y vais. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas toucher le nouveau tant que tu n'es pas prêt à lâcher l'ancien. Tu ne peux pas courir vers le nouveau, vers la nouvelle saison, tant que tu n'es pas prêt à perdre l'ancien. Il y a des choses merveilleuses pour l'ancien. Mais tant que tu restes attaché à l'ancien, tu ne sauras pas toucher le nouveau. Et je suis venu ce matin comme pour briser ce lien entre l'ancien et le nouveau. Comme pour faire ce que Paul dit. Il dit, j'oublie ce qu'il y a en arrière. En arrière, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais j'oublie ces choses, je ne verrai pas, mais laisser influencer par ce qu'il y a en arrière, par ce que j'ai vécu dans le passé. Mais je regarde à ce que Dieu peut faire avec moi dans l'avenir. Et je veux qu'ensemble, nous puissions regarder dans l'avenir, en tant qu'Église, où est-ce que Dieu nous veut. C'est possible de regarder dans le passé et de rester là, dans ce que nous vivons. Mais c'est possible de se dire ce que Dieu a fait jusqu'ici. C'est une preuve qu'il peut faire encore autre chose, plus que ça. C'est ce que Dieu a accompli jusqu'ici. C'est une preuve qu'il y a des choses que Dieu peut faire après ici. Hier, nous nous sommes retrouvés ici avec des frères et des sœurs pour prier. Et alors que nous prions, après la semaine de prière, on a demandé aux gens est-ce qu'ils avaient des orientations, des ressentis par rapport à ces projets de départ et d'achat, de vente. Et chacun a exprimé sa crainte. J'ai un frère qui a été sincère et m'a dit, Pasteur, j'ai prié toute la semaine et seul Dieu sait que j'ai prié. Mais je n'ai pas la paix. Et quand je n'ai pas la paix, je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut pour nous. J'ai dit, heureusement, tu nous l'as dit. Ce sont des choses pour lesquelles on va prier. On a prié, on a prié. Ce matin, le même frère, il revient et il dit, Pasteur, quand j'ai dormi cette nuit, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu qu'on achetait une nouvelle salle, une grande salle, et nous étions tous dans la joie. Il dit, Pasteur, je suis content d'avoir exprimé ma crainte hier parce que Dieu a apaisé mon cœur. Et il m'a dit, ce frère, je vais réciter son nom, je lui ai demandé la permission, c'est le frère Jean-Michel. Elle dit, pasteur, je suis prêt. Partons. Tant que tu n'es pas prêt à faire le pas, il y a des choses que tu ne vivras pas. Tant que tu n'es pas prêt à lâcher le passé, les choses dans l'avenir, tu ne les vivras pas. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que Dieu a fait jusque-là? Et quand je dis briser les contacts avec le passé, je ne veux pas dire ne pas reconnaître ce que Dieu a fait dans le passé, mais être reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli. Et étant reconnaissant, croire qu'il n'a pas encore fini et qu'il peut faire encore beaucoup de choses. Hier, toutes les personnes qui étaient ici avec nous, chacun a témoigné de ce que Dieu a fait pour elles ici, en cet endroit. Parce que nous avons tous des témoignages de ce que Dieu a fait ici. Et ce qui nous a encouragés, c'était quoi? Si Dieu l'a fait ici, et ces gens qui ne peuvent pas être ici, donc il y a d'autres gens pour qui Dieu veut faire la même chose et qui sont ailleurs, il faut qu'on crée de l'espace pour eux. Pour qu'ils soient en mesure de saisir. C'est que si nous sommes en train de dire partons d'ici, ce n'est pas parce que nous aimons pas, parce que nous voulons être comme les autres, c'est parce que nous voulons créer de l'espace. Nous voulons élargir l'espace de notre étente pour que Dieu continue à faire ce qu'il a fait et qu'il y fasse encore plus, qu'il touche encore beaucoup de vies. Et Dieu le fera. Et il va le faire pour chacun de nous, chacun dans sa vie. Mais accepte de te lever et de courir. Ne restez pas en arrière. Allons-y ensemble. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Je ne sais pas c'est quoi pour toi. Je ne sais pas c'est quoi le surplace que toi tu as fait. Je ne connais pas cette zone de confort que toi tu dois quitter maintenant. Je ne sais pas c'est quelle saison dans laquelle tu es et comment tu dois discerner le temps et le contenu du temps. Je ne sais pas ce que t'amène à douter de ce que Dieu est capable de faire. Mais c'est en ce moment, en ce début d'après-midi, j'aimerais que tu dises au Seigneur, je suis prêt. Comme le frère l'a dit ce matin, je suis prêt, allons-y. Que tu dises, Seigneur, je suis prêt, allons-y. Je veux être là où toi tu veux que je sois. Je veux être là où toi tu m'attends. Dans ma marche avec toi, je sens que je n'avance plus. Dans ma marche avec toi, je sens que je suis fait des surplaces pendant longtemps. Mais Père, je crois qu'il y a encore meilleur. Il y a plus que ça, il y a mieux que ça. J'aimerais me lever et aller saisir ces choses. Tu me dis, Seigneur, dans mon travail, ça ne va pas. Je sens qu'il faut partir. Donne-moi le courage de faire le pas pour te suivre dans ce que tu es en train de faire. De quitter cette zone de confort. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton soutien. Aide-moi. Aide-moi. Toi seul peux le faire. Alors, ce que nous prions tous ensemble, Hugo va s'avancer et va prier pour nous tous. Prie pour toi-même. Prie pour notre Église. Prie que Dieu nous rende prêts. Que Dieu nous donne la capacité de faire. La Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui crée dans nos cœurs ce désir d'arrêter de faire certaines choses et ce désir de commencer à faire autre chose. Demande au Seigneur, donne-moi cette grâce pour que je fasse comme toi tu voudras, ce que toi tu veux, et que je te retrouve là où toi tu m'attends.
Amen. Avant de prier, j'avais quelque chose sur le cœur. Je me demandais si j'allais le partager ou pas. Le pasteur me donne cette occasion. Dans mon cœur, je me disais, effectivement, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte d'ici, qu'on aille trouver plus grand. Il y a beaucoup de raisons. Mais je n'avais pas encore la conviction que c'était la conviction que Dieu voulait. Alors que c'était sous mes yeux, en fait. Pourquoi le Seigneur veut ça? Vous voyez le nombre de places, on n'a pas assez de places. On se le redit souvent, on se dit oui, ce serait quand même mieux d'avoir plus grand. Et ça fait des années qu'on se dit même que chez les ados, il n'y a pas beaucoup de places. Dans certains endroits, il n'y a pas beaucoup de places. Et on me dit, mais si le Seigneur envoie des gens, c'est parce qu'il veut toucher encore le cœur. Et nous, on ne peut pas se dire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de places, mais on ne sait pas si on doit partir. Et bien sûr que si, on doit partir. S'il n'y a plus assez de places ici, comment le Seigneur va ajouter des personnes? Comment le Seigneur va ajouter des gens ici? Bien sûr que si on est dans la saison, c'est le Seigneur qui nous envoie. Dieu de gloire, merci, merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui parle au cœur. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ouvre les portes. Tu es ce Dieu qui fraye les chemins, Seigneur, mon Dieu. Père, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur, présent devant toi. Seigneur, tu connais les inquiétudes, Seigneur, tu connais les peurs, tu connais, Seigneur, mon Dieu, ce qui nous freine. Éternel, nous voulons confier ça, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons reconnaître, Seigneur, mon Dieu, devant toi, quelles sont nos inquiétudes, quelles sont nos peurs. Reconnaître, Seigneur, mon Dieu, ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Je te dis, Père, nous voulons aller là où tu veux nous envoyer, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, nous sommes en tant qu'Église là, Seigneur, mon Dieu, pour vivre, Seigneur, mon Dieu, le salut que tu nous as donné. Nous l'avons, Seigneur, mais le vivre, ça veut dire le partager. Ça veut dire permettre à d'autres personnes, oui, d'être touchées, Seigneur, comme l'a entendu ce mat hier matin. Comment tu as touché chacun de nous, Seigneur, dans cette assemblée, dans ces locaux, Seigneur. Mais tu veux continuer à utiliser cette assemblée pour toucher encore d'autres personnes. Tu veux pouvoir appeler encore d'autres personnes qui viennent à toi et qui glorifient ton nom et qui en appelleront encore d'autres, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons déclarer que nous voulons être dans ce plan, Seigneur. Que nous voulons, Seigneur, que ta volonté se réalise, Seigneur, pour cette ville. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as tellement fait, Seigneur, pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette assemblée, dans ces locaux et dans les locaux précédents aussi, Seigneur. Et c'est toi qui as permis qu'il y ait ces locaux aussi aujourd'hui, Seigneur. Et c'est toi qui permettras qu'il y ait d'autres locaux encore demain pour faire encore plus dans cette ville. Père éternel, nous voulons nous confier entièrement à toi, Seigneur. Et reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous conduis, que c'est toi qui nous éclaires et on veut, comme l'a dit le pasteur, être obéissant, Seigneur, pour pouvoir voir ce que toi tu vas réaliser et pour pouvoir te rendre grâce et te glorifier, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu parles. Merci parce que c'est toi qui rassures, Seigneur, quand j'étais tellement inquiet, Seigneur, par rapport à ce projet. Éternel, tu m'as dit, c'est pas toi qui le portes, c'est moi qui le porte. Et nous voulons croire, Seigneur, que c'est toi qui vas porter, Seigneur, ce projet. Que tu continues à le faire, Seigneur, mais que tu veux nous utiliser, Seigneur. Et notre prière, c'est que, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à tous être prêts pour faire la part que tu as préparée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Père, que nos vies continuent à te glorifier, Seigneur, et que nous nous attachions à toi, Seigneur, que nous doutons de tout, Seigneur, que nous te fassions entièrement confiance et qu'on se laisse conduire, Seigneur. On sait pas...